Le temps de se reconnecter à Idélib. Bien, on voit que M. Marquet arrive, c'est de bon augure. Et je salue également M. Ruiz, directeur de l'Audiard, qui nous a accompagnés dans toute cette phase de réflexion, à la fois sur le plan méthodologique et sur le plan des contenus. Donc je vais, sans plus attendre, donner la parole à Bernard Marquet qui va procéder à un point d'étape. Donc point d'étape, ça veut dire qu'il y aura d'autres étapes, l'une prévue en juin, l'autre normalement lors de notre session de septembre, sur tout le chemin, le travail qui a déjà été réalisé depuis presque un an maintenant, lorsque nous avons pris la décision de nous engager dans cette réflexion et à cette fin de constituer un groupe de pilotage, groupe au sein duquel une dizaine de collègues conseillers départementaux représentatifs de la pluralité de cette assemblée ont œuvré au fil des mois et des semaines écoulées. Monsieur Marquet, c'est à vous.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc nous allons effectivement faire un point d'étape sur la dynamique et la réflexion prospective Ille-et-Vilaine 2035. Alors nous allons le faire à trois voies, si je puis dire. Je vais d'abord effectivement faire un petit propos introductif. Je céderai ensuite la parole à Monsieur Ruiz pour faire une présentation pour certains de nouveaux, parce que certains l'ont déjà eu en comité de pilotage en particulier, sur les scénarios contrastés qui ont servi finalement de base de travail pour la phase de concertation qui est toujours en cours. Et je dis c'est un sujet à trois temps, puisque à trois interventions, puisque la troisième intervention, une fois que nous aurons fait ces présentations-là et les réactions que je vous présenterai aussi sur les phases de concertation avec les groupes de travail qui se sont déjà réunis, le troisième acteur qui interviendra, ce sera vous dans le débat qui suivra. Voilà. Alors, juste peut-être petit propos introductif. Donc, la démarche Ille-et-Vilaine 2035, elle a pour but d'imaginer ce que pourrait être notre territoire d'ici, en gros, deux décennies, c'est à l'échéance de 20 ans, 30 ans. En tout cas, de se situer non pas dans une perspective court terme, mais bien se situer dans une perspective moyen terme, sans non plus tirer des plans sur la comète à des échéances beaucoup plus lointaines, ce qui serait sans doute un exercice assez vain. Pourquoi on fait ça? C'est afin de préparer, bien évidemment, notre développement et de penser notre aménagement selon un certain nombre de critères, et c'est important, effectivement, que nous choisirons, que nous privilégierons collectivement, parce que c'est aussi une question de collectif. C'est pas qu'une question de choix unique, y compris du département, c'est d'où cette phase de concertation sur laquelle je reviendrai, qui implique effectivement qu'il y ait une construction collective du scénario souhaité. Cette vision de l'avenir du territoire brétilien, il a trois finalités. Première finalité, c'est évidemment d'orienter nos politiques départementales en matière de solidarité territoriale, c'est de procéder à un certain nombre d'adaptations, voire de créer éventuellement de nouvelles modalités d'intervention, mais pas seulement nos politiques de solidarité territoriale, mais aussi nos politiques de solidarité humaine et leur articulation avec la solidarité territoriale, parce que je pense qu'on ne peut pas penser l'un sans penser aussi l'autre. L'autre finalité, c'est, je l'ai dit un peu en avant-propos, d'une certaine manière, en introduction, c'est de fédérer les acteurs du territoire autour d'objectifs communs. Et je pense que cet impératif de mobilisation collective est presque aussi important, je dirais, que la description même du scénario, si je voulais aller plus loin dans le raisonnement, même si c'est un peu excessif. Et de contribuer aussi, parce que c'est une réflexion qui est aussi en cours à l'échelle régionale, et de contribuer aussi à la réflexion régionale, en particulier dans le cadre de la BRICSCOP et l'élaboration du SRADET. On a engagé cette démarche maintenant il y a un peu plus de 18 mois, hein, donc effectivement on prend le temps, hein, c'est pas quelque chose que nous voulons faire de manière à un rythme soutenu, c'est un bon rythme, mais on prend notre temps, et on a franchi effectivement une première étape en juin 2018 avec un débat que nous avons eu ici sur le diagnostic et l'identification des grands enjeux pour le futur de l'Ille-et-Vilaine, je vous le rappelle. Depuis cette phase-là, depuis cette période-là, des scénarios ont été élaborés et ont été mis en discussion auprès de nombreux acteurs. Et c'est justement l'objet du rapport aujourd'hui de faire un point d'étape sur la démarche, à travers d'une part la présentation des scénarios possibles mis en discussion. Donc c'est une présentation que M. Ruiz assurera dans la foulée, directeur de l'Audière, qui nous a assisté dans cette démarche et que je remercie, avec le bureau d'études de Rouge Vif Territoire, qui est également notre partenaire. Je vous présenterai moi ensuite une synthèse, hein, rapide, mais une synthèse toutefois de la concertation qui a été engagée depuis l'été dernier et les quelques grands enseignements qu'on peut déjà en tirer. Et puis je vous préciserai également le calendrier des étapes à venir pour aboutir, et c'est important, à un nouveau débat en septembre prochain sur le scénario cible que nous pourrions retenir collectivement. Alors, je vous propose que le débat s'engage à la fin sur ces trois points et non pas sur chaque point individuellement. C'est pour ça que je vous propose que les interventions soient plutôt concentrées à la fin de l'ensemble de la présentation plutôt qu'en cours de présentation, car je pense qu'effectivement que l'éclairage même des enseignements de la concertation sur le scénario est un élément important pour la discussion. Et c'est également important d'avoir à l'esprit, et je pense que c'est important qu'on ait vraiment cet élément-là en tête dans notre discussion qui suivra, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de voter, entre guillemets, sur un scénario, pour un scénario ou contre un scénario, mais finalement, collectivement, d'enrichir notre réflexion à partir du travail réalisé sur les scénarios possibles. Il faut vraiment prendre ces scénarios, comme on fait d'ailleurs l'ensemble des acteurs qui se sont prêtés au jeu de ce travail de concertation. Il faut vraiment les prendre comme étant des supports de discussion et de confrontation de points de vue. Avant de commencer l'exposé, je vais aussi tirer parti de la discussion que nous avons eue en commission. Je voudrais revenir sur les débats effectivement qui ont eu lieu en commission la semaine dernière. Et peut-être apporter, pour éclairer aussi un peu le débat pour la suite, d'apporter des précisions, à la fois des précisions de principe et de méthode, en préalable, effectivement, à nos échanges. Trois points qui me semblent importants que nous ayons bien en tête et qui me sont nécessaires de préciser. Première précision, c'est que les scénarios qui vous sont présentés, qui vous sont présentés, intègrent tous les grands changements auxquels notre territoire devra faire face dans les prochaines années. Quand je dis tous les enjeux, c'est en particulier intègrent le changement climatique, la problématique du changement climatique, de la transition énergétique, et intègrent la question du vieillissement de la population. Ces enjeux ont été extrêmement présents dans les diagnostics qui ont été faits et présentés en juin dernier, et tous les scénarios, je dis bien tous les scénarios qui vont vous être présentés, les trois scénarios en l'occurrence, ont vocation à être totalement traversés par ces questions. Les scénarios envisagent comment le territoire s'adapte à la contrainte. C'est plus ou moins facile, effectivement, selon les scénarios et l'intensité des changements, mais ce sera aussi, et c'est important, l'enjeu de la construction du scénario cible que de préciser comment notre vision prend en compte ces transformations. Voilà, je voulais le redire et apporter cette précision, parce que je pense que les débats que nous avons eus en commission nécessitaient que j'apporte cette précision. Deuxième précision, c'est que la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035, elle est spécifique, mais elle est aussi complémentaire des réflexions conduites dans le cadre des SCOT ou de la démarche régionale autour du SRADET et de la BRAISCOP. L'échelle départementale, et je crois que c'est une profonde conviction, mais je crois qu'il est partagée par l'ensemble des personnes qui sont ici, mes collègues conseillers départementaux, l'échelle départementale, elle est pertinente pour penser certain nombre de questions d'aménagement et de solidarité entre les territoires. On doit le faire à la fois pour élaborer des politiques publiques dont nous avons la responsabilité, mais la démarche peut aussi être utile à la cohérence, en particulier des outils existants, des SCOT, ou à la prise en compte dans la stratégie régionale des spécificités de l'Ille-et-Vilaine. D'une certaine manière, donc, nous sommes utiles, de ce point de vue, dans le débat, mais elle est aussi différente, cette approche de l'Ille-et-Vilaine, des autres démarches. Elle s'en distingue d'une certaine manière, car c'est, et ça se veut, et ça restera, et je crois que c'est important aussi que ça vive comme ça, comme une démarche partenariale, pour élaborer une vision commune, et non pas, c'est sans doute notre particularité, ce qui est aussi peut-être notre force d'une certaine manière dans l'animation territoriale, de pas non pas produire un document prescriptif de règles qui est effectivement le souci sans doute aussi de la région à travers son Sraddet, mais qui n'est pas le nôtre. Troisième précision, et c'est important, la recherche d'un développement équilibré et solidaire de l'Ille-et-Vilaine doit évidemment intégrer une vision du fonctionnement de la métropole avec son environnement proche. Je sais que c'est un débat et c'est un risque qui se pointe à l'horizon dans nos échanges, de faux débats quelquefois. Il paraît effectivement difficile d'imaginer que cet équilibre territorial soit atteint en raisonnant sous forme d'opposition entre les territoires. Je crois que c'est important de le dire. Il faut objectiver un certain nombre de données. Peut-être qu'on le refera dans la discussion qui suivra. Je m'appuierai là sur les expertises qu'apporte M. Ruiz en la matière. Je suis vraiment convaincu, et je crois que je ne suis vraiment pas le seul dans cette assemblée, que c'est l'enrichissement de ces liens entre les territoires dans une logique véritablement de réciprocité qui doit nous permettre de construire un avenir positif pour l'Ille-et-Vilaine dans son ensemble. Voilà. Je voulais poser ces quelques préalables un peu en avant-propos. Et du coup, je vais passer effectivement la parole à M. Ruiz pour que nous rentrions dans la présentation des trois supports, scénarios supports, qui ont servi dans les phases de concertation qui se sont déroulées jusqu'à maintenant.
Merci, Monsieur Marquet. Donc, effectivement, je vais vous présenter là les trois scénarios possibles qui sont issus du travail réalisé à la fois par les services, avec l'appui, comme vous le rappeliez, du bureau d'études Rouge-Vif et de l'Audiard. Une précision sur ces scénarios, ce sont des esquisses. Hein, elles sont volontairement non détaillées. Elles présentent un certain nombre d'angles morts et elles nécessiteront d'être retravaillées par la suite. Elles ont tous un moteur principal différent, et à partir de leur examen, de leur analyse, de leur mode de fonctionnement, de leurs effets envisageables, l'idée est bien d'identifier derrière les éléments incontournables, constitutifs de ce qui pourrait être le scénario cible futur du département d'Ille-et-Vilaine. Le premier de ces scénarios, c'est le territoire compétitif. Il est basé en priorité sur l'économie. Il part du principe que les filières majeures actuelles, agroalimentaires, automobiles, numériques du territoire, et d'autres plus nouvelles comme l'énergie, continuent à se positionner ou se repositionnent sur des segments à haute valeur ajoutée pour faire face à la concurrence, et notamment la concurrence mondiale. Vous savez que ce sont des secteurs qui sont soumis à de fortes mutations. Ça permet de valoriser les atouts du département à tous les plans, hein, régionaux, nationaux et internationaux. Et ça permet aussi de générer un nombre important d'emplois diversifiés sur le territoire qui assure au département une situation sociale, économique relativement bonne. Alors, ce renforcement du poids de l'économie et des grandes filières se traduit aussi dans ce scénario par la poursuite de la concentration des centres de décision dans la métropole et dans les corridors de développement, qui sont des corridors qu'on avait pointés lors de la phase diagnostique, notamment Vitré-Fougères, par exemple, ou Saint-Malo-Rennes. Avec, en parallèle, un littoral qui se renforce, lui, mais en particulier sur le développement du tourisme. Dans ce scénario, les déplacements domicile-travail ont eu tendance à s'intensifier avec ces mouvements de polarisation, mais ils ont été gérés par la mise en œuvre de systèmes de mobilité performants, interconnectés, notamment grâce au numérique et à la combinaison de différents modes de déplacement, ce qui a permis de mieux gérer les engorgements et tous les phénomènes de congestion qu'on connaît aujourd'hui, notamment sur la rocade de Rennes. Il y a des risques d'effets négatifs dans ce scénario, notamment au niveau social. Difficulté à trouver un emploi pour les actifs les moins qualifiés, puisqu'on sent bien que dans ce modèle, on est plutôt sur de la haute qualification. Il peut y avoir des effets négatifs au niveau environnemental, consommation des terres, épuisement des ressources, on a beaucoup parlé de l'eau. Il peut y avoir des effets négatifs au niveau territorial, relégation des territoires qui sont éloignés des centres de décision. Mais tous ces effets ont été limités, gérés, grâce à une action forte des pouvoirs publics, notamment dans la formation, dans l'aménagement et la protection de l'environnement. Voilà, un moteur principal dans ce scénario, c'est les filières majeures de l'économie et les nouvelles filières en développement. il y a une relation, un rôle du public particulier à pointer, c'est qu'il y a un partage des tâches. Au public, la prévention et la correction des effets négatifs du scénario. À l'économie et au privé, la création d'emplois. Un enjeu, pour que ça fonctionne, ça suppose qu'il y ait un pacte entreprise et territoire, notamment sur les dimensions environnementales et sociales. Vous avez la traduction cartographique de ce scénario sur les écrans qui vous sont présentés là. Alors, j'ai pas mon pointeur, c'est un peu dommage. Il y a à pointer dans cette cartographie, tout d'abord dans les couleurs orange autour de la métropole, vous voyez que le cercle de la métropole est assez dense. Vous avez les corridors en rosé, les zones rosées, et vous avez les villes moyennes dans des hexagones de couleur un peu marron, je ne sais pas ce que ça veut, c'est ça. Donc, première chose à pointer dans cette cartographie, c'est la relation forte de la métropole aux corridors de développement et aux villes moyennes en croissance du territoire. Premier point. Deuxième point, ce sont les petite flèche bleue qui sort du territoire du département. C'est le rayonnement national et européen marqué de ce scénario. Vous avez la liaison à Paris, bien sûr, mais vous avez aussi la liaison à Caen-Amsterdam, à Brest-Saint-Brieuc, à Lorient-Vannes, à Nantes-Barcelone et à Lyon-Milan. Il y a une ouverture très marquée dans ce scénario aux autres territoires et à l'Europe. Troisième point à relever dans cette cartographie, c'est le partage des fonctions économiques spatiales. C'est-à-dire, l'économie, c'est dans les corridors et sur la métropole. L'agriculture, c'est dans les grandes zones vertes qui sont pointées sur la carte. Le littoral et le tourisme, c'est les zones bleues qui, évidemment, couvrent Cancale et Saint-Malo. Voilà, une répartition des tâches avec un dernier point. Ce sont des réserves naturelles et de biodiversité, les zones tramées, jaunes, qui sont dans les interstices entre les zones de développement économique et les zones dédiées à l'agriculture. Voilà pour ce scénario, le territoire compétitif. Deuxième scénario. C'est celui du territoire en réseau. C'est un scénario basé sur, évidemment, un moteur complètement différent. Premier point à mettre en avant pour la construction de ce scénario, c'est l'enjeu de la prise en compte des notions de service et d'aménagement dans l'ensemble du département, avec derrière l'idée d'un renforcement des pôles de centralité des petites villes et des villes moyennes, jusqu'à parvenir à un maillage équilibré, plus équilibré du territoire en bassin de service. Derrière, il y a des incitations et une application beaucoup plus stricte de la réglementation pour aider à concentrer l'habitat et les services dans ces polarités. Donc il y a moins de mitage et on part du principe dans le scénario qu'il ne sera pas possible d'implanter des équipements et des services de partout dans le territoire. Ça permet de limiter le mitage en zone rurale et d'assurer un meilleur équilibre territorial. Troisième point important de ce scénario, c'est le soutien à l'économie locale, l'appui au système d'enseignement supérieur et de la formation autour de ces polarités qui ont été appuyées dans ce scénario, favorise l'émergence de TPE, de PME innovantes dans différents secteurs. Et vous pointerez là qu'ils sont assez différents des autres, c'est la construction, la transformation agricole, l'énergie, la culture, le tourisme, les services à la personne, donc des secteurs qui valorisent davantage les ressources locales, qui permettent la création d'emplois locaux, moins délocalisables par définition, sachant quand même que dans ce scénario, on part du principe que les grandes filières se maintiennent, heureusement, vu le poids qu'ils représentent en termes d'emploi, et continuent à concentrer une partie de leurs activités et de leurs emplois dans la métropole et dans les plus grandes agglomérations autour des villes moyennes du département, mais de manière moindre que dans le précédent scénario. Ces transformations, elles supposent un dialogue permanent entre les différents niveaux de collectivité afin que soient bien régulés les choix d'aménagement en matière de mobilité, par exemple. Il suppose aussi de favoriser les coopérations et les complémentarités entre territoires, et ça suppose aussi une solidarité en direction des territoires les plus fragiles. C'est un scénario qui rebondit bien sur le propos que vous teniez, M. Marquet, sur relation de la métropole aux autres territoires. Quel est le moteur principal de ce scénario? C'est celui du parti pris d'une armature urbaine très diversifiée, avec des pôles relais nombreux dans le territoire, en matière de services à la population et aux acteurs, avec en corollaire une reconcentration d'une partie des services à l'échelle locale. En ce qui concerne les pouvoirs publics et leurs fonctions, c'est un scénario qui est basé sur des pouvoirs publics très interventionnistes, planificateurs, qui sont garants du respect de la réglementation. C'est aussi des collectivités qui coopèrent fortement entre elles. Alors, quels enjeux pour ce scénario? C'est déjà que des relations partenariales importantes entre toutes les collectivités, je reviens sur le propos métropole, ville moyenne, pôle relais dans le territoire, ça suppose aussi, comme enjeu, une gouvernance et une animation territoriale à renforcer. Clairement, le développement de ce scénario s'appuie sur les ressources locales et ancrées sur le territoire, en parallèle au développement économique lié aux grandes filières. Voilà, en termes de cartographie, ce scénario se traduit de la façon suivante. Là aussi, une armature territoriale hiérarchisée et très organisée, avec derrière des villes moyennes en essor, des pôles de services dans le périurbain, des pôles d'équilibre, des pôles de services. Vous voyez bien ce maillage, cette cartographie très maillée du territoire. Vous avez aussi un maillage qui est adapté à chaque type de territoire. Les villes moyennes, les pôles de relais, les pôles de proximité n'ont pas la même taille, mais ils ont chacun un certain nombre de niveaux d'offres en fonction des populations qu'ils desservent. Deuxième point important à relever dans cette cartographie, c'est celui des relations territoriales interterritoriales, des relations internes, interterritoriales très intenses. Ce sont tous les traits noirs qui dessinent une espèce de toile d'araignée sur la cartographie, avec notamment les grands axes, avec les traits les plus importants, et l'ensemble du maillage entre les pôles de cette armature. Dernier point, il faut noter qu'aucun espace territorial n'est laissé pour compte dans ce graphique. Les campagnes restent peut-être un peu à la périphérie du développement local, mais on a une couverture quasi globale du territoire, y compris sur le littoral, où on a là un espace littoral touristique, mais aussi maritime. Voilà pour ce deuxième scénario, le territoire en réseau. Dernier scénario, le territoire des expérimentations. Il avait aussi été appelé à un moment le territoire du sursaut citoyen. Sur quoi il est basé ce scénario? Sur d'abord l'évolution des pratiques individuelles et collectives, les mutations sociétales dont on voit aujourd'hui un certain nombre de signaux qui sont d'ailleurs de moins en moins faibles. Cette évolution, favorisée par des efforts en matière d'éducation, par la réaction aux effets du changement climatique, notamment, conduisent à un changement profond du modèle de développement local dans le département. Il est basé dans ce scénario beaucoup plus sur l'économie circulaire et les circuits courts. Deuxième point majeur de ce scénario, c'est que cette économie circulaire se fait à plusieurs niveaux et dans plusieurs registres. Tout d'abord, l'optimisation des ressources, production agricole, énergie, eau, matériaux de construction, déchets, services. Alors, je devrais plutôt ne plus employer le terme de déchets, puisque maintenant on parle de ressources. Les déchets sont des ressources. Et cette optimisation se fait par des synergies fortes entre les agglomérations et leurs territoires environnants. Deuxième point de cette économie circulaire, c'est un approvisionnement durable et des consommations responsables en circuits courts, locaux. Enfin, il y a derrière un dernier point sur cette économie circulaire, c'est l'éco-conception et le développement exponentiel de l'économie de la fonctionnalité. Privilégier l'usage à la possession, vendre un service plutôt qu'un bien, C'est Michelin qui vend des kilomètres et qui vend plus des pneus, par exemple, par les entreprises et par la recherche. Dernier volet de ce scénario territoire des expérimentations, c'est qu'il suppose des efforts très nets en matière d'innovation, d'apport d'expertise, de détection et de soutien aux initiatives des citoyens et des entreprises dans tous les domaines que j'ai évoqués. Il suppose aussi un appui à l'expérimentation et des recours à de nouveaux modes de financement citoyens, collaboratifs, le crowdfunding que vous connaissez certainement. Voilà pour ce scénario. Quel est son moteur principal ? C'est les mutations sociétales majeures et le changement climatique. Deuxième moteur principal, c'est la reconnaissance et l'appui à apporter aux aspirations citoyennes et aux initiatives citoyennes. Un de ces enjeux, c'est le changement profond de modèle économique, mais un modèle économique qui reste toujours ouvert sur le monde. Sur le rôle des collectivités, on est là sur des collectivités qui soutiennent le développement local, qui appuient et valorisent les initiatives citoyennes ou des entreprises, qui aident à leur généralisation. Ce sont des collectivités animatrices des réseaux et donc facilitatrices de ce développement-là. Des enjeux forts pour ce scénario, c'est une ouverture plus importante de la gouvernance aux citoyens, et enfin, on peut l'exprimer comme ça, une forme de lâcher-prise au profit de l'initiative locale. Voilà, ça se traduit en termes de cartographie. Alors, elle est un peu moins détaillée que les précédentes, par la carte que vous avez là, où vous retrouvez les polarités autour des villes moyennes, etc., mais de manière un peu plus diffuse, un peu plus lâche. Donc, une armature urbaine toujours hiérarchisée, mais plus diffuse. Hein, la métropole est... Et c'est ce qu'on appelle dans nos jargons la métropole diffuse. Hein, elle est là, elle est aussi hors les murs, hein, la métropole. Vous avez en deuxième point une moindre concentration, c'est ce que je dis sur la métropole, des fonctions la Rennes, hein, et sur l'agglomération au cœur du département. Et vous avez en dernier point, et on l'a présenté comme ça, une interpénétration avec les grands bassins de vie limitrophes à l'échelle interdépartementale. C'est avec la Manche, c'est avec la Loire-Atlantique, c'est avec les Côtes d'Armor, mais c'est vrai qu'on perd là l'ambition ou l'ouverture à l'échelle européenne et mondiale. Voilà, j'ai marqué, j'ai terminé, j'espère que c'était pas trop long.
Merci, Monsieur Ruiz. Donc, je vais reprendre effectivement la main pour vous donner quelques indications sur les réactions que nous avons obtenues autour de ces différents scénarios dans les phases de concertation qui se sont déroulées jusqu'à maintenant. Juste peut-être pour vous dire aussi que dans ces phases de concertation, bon, on a à la fois eu des groupes de travail internes au département. Les agents du département se sont mobilisés autour d'une réflexion collective autour des différents scénarios. Le comité de direction a aussi fait ce travail. On a eu un groupe de travail aussi d'acteurs qui sont qualifiés en matière d'armature territoriale, ceux qui réfléchissent en particulier aux SCOT ou qui participent à l'élaboration des SCOT ou à la réflexion inter-SCOT. Effectivement, il y a eu un groupe de travail autour de ça. D'ailleurs, c'est une problématique que l'on va continuer à travailler avec, à l'invitation, je pense, Monsieur Ruiz, sur l'animation inter-SCOT prochainement. On a évidemment mobilisé les comités consultatifs qui ont souhaité y travailler, en particulier, je pense, aux trois comités consultatifs agriculture, qui a beaucoup insisté sur la problématique du foncier, celui sur l'environnement, qui a souligné la question de l'eau et de l'accès à la ressource eau et les enjeux que ça représentait pour les décennies à venir sur notre territoire en termes de développement, et le comité consultatif sur l'ESS, qui, l'économie sociale et solidaire, qui a pris à bras-le-corps un petit peu la question, effectivement, de la mobilisation citoyenne et de la capacité à développer des projets qui s'appuient effectivement sur une mobilisation des habitants eux-mêmes. Parmi les groupes de travail, nous avons eu aussi des étudiants du master de l'IEP donc qui ont travaillé sur ces différents scénarios. Des groupes de travail également issus du monde de l'entreprise, du monde sociaux, du champ économique, des acteurs du champ économique et socio-éducatif, qui est un des derniers groupes de travail, qui a réuni d'ailleurs 60 ou 70 personnes là, il y a quelques semaines, en faisant le pari d'ailleurs de mélanger à la fois dans ces groupes de travail, à la fois des acteurs de l'entreprise, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, des représentants des organisations patronales et des organisations syndicales, mais aussi des acteurs du champ du socio-culturel et du social. Donc, ce qui, effectivement, était aussi une démarche originale, je pense, dans le fait que, sous cette configuration-là, je pense que c'est assez rare qu'on puisse les faire travailler ensemble. Mais c'était tout à fait intéressant. Et donc, un travail qui est actuellement en cours auprès des collégiens. Donc, on ne vous donnera pas de restitution aujourd'hui. Mais lors de la session du mois de juin, nous aurons le plaisir d'accueillir des projets des collégiens qui nous présenteront. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait pas travailler de la même manière. Hein. On s'est aussi évidemment calé aussi par rapport à des travaux pédagogiques qu'ils avaient en cours, mais qui je pense aussi une approche un peu décapante et qui permet d'avoir aussi un autre regard. Et ça fera l'objet d'une présentation au mois de juin, en invitant effectivement des collégiens à venir nous présenter leur vision en tant que futur acteur. Engagés du territoire d'Ille-et-Vilaine pour un certain nombre d'entre eux, sans doute. Voilà, et nous aurons, et c'est aussi important, je signale cette date si jamais vous ne l'aviez pas encore dans vos agendas, nous allons réunir l'ensemble des présidents de PCI et maires de l'ensemble des communes d'Ille-et-Vilaine à une rencontre le 13 mai pour partager ces scénarios et surtout confronter, échanger nos points de vue sur cette vision de l'avenir du territoire d'Ille-et-Vilaine. Je dis bien du territoire d'Ille-et-Vilaine, je ne parle pas du département en tant qu'institution, mais il s'agit bien d'une réflexion sur l'avenir du territoire d'Ille-et-Vilaine et de son aménagement futur et la manière dont on peut organiser collectivement cette cohésion et organiser autour de valeurs partagées notre vision et travailler sur notre vision de l'avenir. Alors, si j'en viens plus spécifiquement aux réactions à la perception des scénarios, alors je vais évidemment être un peu succinct, on pourra y revenir dans la discussion, très, sans doute un peu sans rentrer dans le détail à proprement parler. Le scénario des territoires compétitifs, tel qu'il vous a été présenté, a été véritablement perçu comme le scénario tendanciel, comme celui finalement qui est. Si, bon, voilà, c'est le cours naturel des choses, ça pourrait se passer comme ça. Finalement, c'est tout à fait dans la suite logique de ce qui existe et de la manière dont les choses pourraient se développer. Il est perçu comme avec beaucoup d'atouts, hein, avec des atouts, alors évidemment, perçus différemment suivant les acteurs, hein, c'est évidemment de la différenciation de perception. Mais les atouts identifiés, c'est évidemment, c'est un scénario, c'est une organisation qui est totalement créateur de richesses et d'emplois sur le territoire. Son moteur essentiel est un moteur de développement économique. Et en cela, elle est véritablement perçue comme étant, comme elle est d'ailleurs actuellement, inscrite dans une dynamique de création, de richesse, de valeur et d'emploi sur le territoire. Il est perçu aussi comme étant porteur de risques potentiels. Vous avez bien perçu aussi, ça a été dit lors de la présentation du scénario, c'était un peu construit d'ailleurs comme cela, des risques identifiés sur des risques de déséquilibre territoriaux, voire d'accroissement ou de, en tout cas de non-résolution de problématiques d'inégalité sociale sur le territoire, d'accroissement éventuellement d'inégalités, de dépendance économique, hein, perçu comme étant effectivement un scénario très tiré par la compétitivité internationale et avec des risques effectivement de dépendance économique, de risques économiques forts, et comme étant plutôt dans une logique non pas de prise en compte immédiate des enjeux environnementaux, mais plutôt perçu comme étant dans une stratégie de réparation. Alors bon. Voilà, je vous restitue ce qu'on nous en a dit. Hein, je ne partage pas forcément totalement ce qui est dit, mais c'est comme ça en tout cas que les réactions se sont organisées sur ce scénario-là. Concernant le scénario du territoire en réseau, évidemment, et vous avez bien perçu, même à son écoute, dites « Ah, c'est un scénario d'équilibre, hein, d'une certaine manière, de maîtrise, en quelque sorte, avec une volonté, effectivement, de maîtrise de la consommation d'espace, de maîtrise des déplacements, de maîtrise des enjeux énergétiques. Mais donc effectivement des atouts plutôt perçus comme positifs, mais avec quand même aussi un certain nombre de risques identifiés, en particulier d'un risque de finalement de repli. Alors ça paraît peu paradoxal, mais ça a vraiment été identifié dans les groupes de travail comme étant un risque de repli autour des pôles, des bassins de vie, des fonctionnements peut-être. Certes, avec une économie qui se développe, hein, c'est un peu le sens aussi du troisième scénario, autour d'une économie locale, autour d'une économie circulaire aussi, mais avec un renforcement finalement de ces pôles et de ces bassins de vie, avec le développement, si tout ça n'est pas bien maîtrisé, il ne fait pas l'objet d'une forme de réciprocité bien organisée, des concurrences exacerbées entre les territoires. Et voir qui pourrait conduire finalement une espèce de relégation d'un certain nombre de franges de nos territoires qui ne seraient pas finalement dans cette dynamique de bassin. Là aussi, ça a été perçu comme étant un scénario qui n'intégrait pas suffisamment la question sociale et environnementale et les questions du développement humain qui ne semblaient pas pris en compte suffisamment dans la description de ce scénario. Voilà, je restitue un peu en grande ligne. Concernant le troisième scénario, le scénario des territoires des expérimentations, alors évidemment, il a été perçu à la lecture et à l'écoute, vous aussi, vous dites, il n'est pas le même. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres. Donc il est vraiment perçu comme effectivement un scénario de rupture avec des hypothèses totalement à 180 degrés, je dirais, d'une certaine manière, puisqu'il repose sur l'idée que le modèle économique se transforme. Et on change de modèle économique, on change de modèle de développement. Donc il est vraiment perçu comme étant un scénario où les mots-clés sont sobriété, résilience, résistance d'une certaine manière, solidarité, ancrage territorial, forte implication effectivement citoyenne avec une insertion des habitants, une démocratie participative, des efforts de transparence de la vie publique, tant de notions qui effectivement résonnent bien dans l'ensemble de débats qu'on entend depuis quelques temps maintenant, avec une économie qui est effectivement nouvelle, pas forcément totalement nouvelle, mais qui est le moteur un peu de ces scénarios autour des services à la personne, de l'économie de la fonctionnalité, comme ça a été exprimé, tout ce qui est aussi production locale et relocalisation industrielle. Par contre, il est aussi perçu avec quelques gros inconvénients, y compris par ceux qui le perçoivent positivement, comme avec un vrai risque de repli des territoires sur eux-mêmes, une espèce de balkanisation, mais enfin presque finalement on est bien chez soi, hein, finalement ça marche bien chez nous, voilà, une espèce de petit repli territorial, voire petit repli identitaire même dans certains secteurs, et donc avec ce risque effectivement de perte de cohérence du territoire départemental dans sa globalité, avec des gestions de brutales finalement de transition et avec une vraie crainte sur la pertinence économique aussi ce scénario, c'est-à-dire sur le fait est-ce qu'on n'est pas finalement dans une logique de perte de compétitivité, décroissance et d'emploi, voire baisse du niveau de vie. Je restitue ce que ça a été exprimé dans les retours. Voilà un petit peu à grands traits ce que on peut déjà vous dire un peu de la manière dont les différents groupes de travail ont réagi, la façon dont ils ont réagi avec les grandes thématiques qu'ils ont agitées. Quelques enseignements, grands enseignements qui sont un peu les incontournables du scénario cible. Hein, je crois déjà à ce stade-là. Il me paraît évident, peut-être ça paraît de basique d'une certaine façon, ça peut paraître de bon sens, ça peut paraître évident, mais une volonté, une première chose qui est la volonté de, et je crois que ça devra être vraiment notre leitmotiv aussi pour la réflexion sur le scénario cible à proposer au mois de septembre, cette vision qu'on doit construire pour cette échéance, c'est le fait qu'il y a une vraie volonté de développer, d'avoir un développement équilibré du territoire. C'est de base, mais qui valorise effectivement ses qualités propres et qui limite les situations de concurrence ou de fragmentation territoriale. Ce point est important. Dit comme ça, il paraît effectivement évident et simple. Dans la pratique, c'est peut-être plus compliqué que ça. Ce scénario cible, dans ses incontournables, il doit aussi intégrer le fait qu'il faut faire évoluer le modèle de développement du territoire pour répondre effectivement aux défis de la transition énergétique et aux défis climatiques, de manière générale, défis écologiques. Une transition qui doit, alors c'est toute la question, cette subtilité, qui doit permettre aussi le maintien d'une économie performante et créatrice d'emplois non délocalisables, mais qui doit aussi nécessiter un travail sur l'accompagnement à l'évolution des pratiques et une volonté aussi de préserver l'excellence et la visibilité du département et de la métropole rennaise à l'extérieur. Je crois que ce sont des éléments aussi incontournables. Et un grand enseignement aussi qu'il nous faut sans doute intégrer dans la réflexion sur le scénario cible, c'est la volonté du renouvellement des modes de faire de la puissance publique et de l'implication citoyenne. Très concrètement, de manière plus directe, je dirais dans un calendrier plus court, nous aurons aussi ces scénarios et ces réflexions doivent nous servir aussi de cadre de référence pour les réflexions en cours. Je pense en particulier au plan départemental de l'habitat, hein, que nous allons adopter au mois de novembre 2019, et aussi à mobilité 2025, qui fera l'objet d'une approbation en décembre 2019, et qui tiendra en compte, bien évidemment, de cette projection vers l'avenir, puisque ce sera aussi l'occasion, à travers ces plans de développement, d'intégrer un certain nombre de considérations. Donc le scénario cible, il doit intégrer un certain nombre de tendances lourdes à prendre en compte, la dynamique démographique, à la fois l'apport de population, mais aussi la question du vieillissement de la population, la question de la transition écologique, je l'ai dit, la question de l'évolution des mobilités, et la question aussi de l'évolution des comportements et de la vision de la vie en société, qui est un paramètre aussi qu'il nous faut évidemment intégrer à cette échelle de vue. Ils doivent répondre aussi à un certain nombre de questions clés, et c'est peut-être ces questions-là, finalement, que je peux mettre aussi un peu en débat, d'une certaine manière, à travers le temps qui va nous être imparti maintenant de discussion. Finalement, quelles sont les évolutions souhaitables en matière, par exemple, d'habitat, d'activité de service? Quel modèle économique pour le développement du territoire? Comment s'adapter, effectivement, et concrètement, au changement climatique? Comment assurer dans la durée la cohésion du territoire, sa cohésion en termes d'aménagement, mais c'est aussi sa cohésion sociale? C'est bien de cela dont il s'agit quand on parle de cohésion. Et comment on peut favoriser la réciprocité entre les différents territoires, leur niveau de coopération, pour garantir, effectivement, un développement équilibré de l'ensemble du territoire? Voilà un peu les quelques questions, à la fois les enseignements, les scénarios, les quelques réactions que je vous ai livrées, et puis les quelques éléments clés qui nous semblent impératifs de prendre en considération dans la réflexion à venir. Quelques points d'étape sur la démarche justement qui est devant nous. Vous aurez là fin avril, quasiment presque à l'issue de cette session, un dossier spécial dans le Nouveau Hill avec un petit module de consultation auprès des habitants d'Ille-et-Vilaine, puisque ça fait partie aussi cette fois-ci de la phase d'appropriation par les habitants et de sollicitation de leurs réactions. Nous aurons un petit module internet qui permettra de réagir, de travailler sur, et je vais le présenter après, il y aura une petite présentation. Nous aurons le comité des territoires le 13 mai et une présentation en juin, donc des scénarios et des projets des collégiens, à la fois à la commission 2, puisqu'il y consacrera d'ailleurs une partie de son temps, et puis en session du mois de juin. Sur la partie consultation publique, donc peut-être en profiter pour faire à ce stade-là, et après on ouvrira le débat, juste un petit focus sur la manière dont ça va s'organiser dans le Nouveau Hill. On a eu le plaisir de travailler à la fois avec des étudiants de l'ISEA, donc une école de design, et des étudiants de l'INSA, qui ont participé, des étudiantes d'ailleurs, hein, essentiellement des étudiantes, 8 étudiantes, accompagnées à la fois par des agents du département, mais aussi par un certain nombre d'experts externes, qui ont, au cours de démarches créatives, d'ateliers de créativité, se sont penchés sur ces scénarios Ille-et-Vilaine 2035, avec la commande, c'était de dire, bon, voilà, comment on peut, sur une matière complexe, quelque chose de pas forcément facile à faire comprendre, à appréhender dans l'esprit du grand public, est-ce qu'on peut avoir un outil pédagogique qui permet éventuellement de sensibiliser et d'inciter à la réflexion et d'inciter à la contribution. Donc ils ont fait ce travail autour de groupes de créativité, d'expression, avec un mélange des cultures, puisque véritablement c'est des étudiants qui viennent d'univers différents, certains univers de l'INSA, donc avec des logiques beaucoup plus scientifiques et avec des compétences informatiques, et des étudiants en design qui pensent plutôt design de service en particulier. Et ça produit un petit logiciel qui sera mis à disposition sur le site du département, à compter d'aujourd'hui, demain d'ailleurs, et qui contribuera d'une certaine manière aussi à faire de la pédagogie autour de cette démarche, mais aussi à inciter les habitants à réagir et à apporter leur contribution, quelle que soit la nature de la contribution d'ailleurs. C'est pas c'est pas, on n'est pas dans l'organisme, dans le, je veux dire, il n'y a pas de prérequis en la matière. Tout le monde a sûrement une expression sur le sujet, et toute expression sera bonne à prendre. En tout cas, on va s'efforcer de faire en sorte qu'on ait ses retours. Voilà, je vais laisser peut-être Laurent nous présenter le petit outil qui a fait l'objet d'un développement.
Oui, donc très vite, c'est un outil vraiment très simple et très schématique qui reprend les raisonnements qui avaient été développés pour élaborer les scénarios, c'est-à-dire des grandes questions sur la façon dont les moteurs du département, l'économie, la répartition de la population, la répartition des espaces naturels et agricoles. Et en fonction des choix, l'idée c'est que, eh bien, comme certains scénarios sont plus ou moins, des hypothèses sont compatibles les unes avec les autres, eh bien, quand on fait bouger un paramètre, ça conditionne forcément les autres. Et ça donne l'un des trois scénarios qui viennent de vous être présentés. Donc, quelque part, c'était un outil d'ailleurs méthodologique utilisé au départ entre nous pour construire les scénarios, mais là, c'est une façon très schématique. Donc, ça permet de montrer que, évidemment, on ne peut pas raisonner sur l'économie indépendamment des questions d'occupation de l'espace et de mobilité, etc. Et au-delà de cet exercice, donc, il est proposé d'avoir des détails sur ce que recouvrent les différents scénarios, et puis un très court questionnaire sur le scénario qui recueille la préférence des gens qui utilisent l'application, et puis la hiérarchie des enjeux, quelle est la question la plus importante dans les scénarios futurs, et puis également la possibilité d'avoir une contribution à travers une question plus ouverte sur la vision de l'avenir des habitants d'Ille-et-Vilaine.
Voilà, Monsieur le Président, un état des lieux du point d'avancement à la fois sur la matière qui nous a servi pour travailler, les éléments de concertation dont nous disposons actuellement et les phases suivantes qui s'engagent.
Merci Monsieur Marquet, merci Messieurs Ruiz et Courtet. Je vais donc prendre les demandes d'intervention à ce stade, dont chacun a bien compris qu'il n'est pas conclusif de cette réflexion très transversale. Qui souhaite intervenir? Alors Monsieur Mailleux. Pas d'autres interventions. Madame Dréan également. Alors, Monsieur Mailleux.
Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il est effectivement important de pouvoir travailler sur des. Voilà, donc je disais que.
Première série.
Voilà.
Donc, Monsieur Mailleux.
Oui, Monsieur le Président, je disais qu'il était effectivement utile de travailler à des éléments de nature prospectif. Et trois scénarios donc nous sont présentés. Le vice-président Marquet a rappelé qu'ils ont été également examinés par un certain nombre d'acteurs. Moi, je voudrais, avant même qu'on aboutisse à une forme de synthèse ou à quelque chose qui rende convergent ou cohérent ces trois scénarios, faire peut-être quatre remarques. La première, par rapport à la structure même de ce qui est présenté, j'oublie pas qu'il peut pas y avoir de scénario envisageable sans intégrer trois données fondamentales, les données démographiques relatives aux personnes, les données relatives aux activités économiques et sociales et les données relatives à l'environnement, à l'espace. Et sur ce plan-là, j'avoue que tout ne concerne pas les compétences du département et que donc on peut faire des constats, des analyses, des prospectives, mais il faudra à un moment revenir sur quels sont les leviers sur lesquels le département peut réellement intervenir et, à l'inverse, ne pas avoir peur d'examiner quelles peuvent être les relations avec des acteurs extérieurs dont les décisions auraient des influences sur ce que nous souhaiterions. Et là, je veux absolument insister sur le rôle des SCOT. On a la chance d'avoir 7 pays en Ille-et-Vilaine dotés de SCOT. Et M. Ruiz sait très bien qu'il y a un travail important de fait au niveau des interscots. Et quand je dis ça, je veux faire un lien très direct avec le scot du Pays de Rennes, qui, par exemple, prévoit, me semble-t-il, la création annuelle de plus de 5000 logements. Quand la population d'Ille-et-Vilaine augmente de 10 000 habitants, il suffit d'imaginer le nombre minimum d'habitants à mettre par logement et on peut se dire, bah tiens, il y a un endroit qui a déjà imaginé la capacité d'accueil de 10 000 personnes en créant 5 000 logements par an. Donc il est important de ne pas craindre de s'assurer que les visions des différents SCOT se trouvent en cohérence avec ce que pourrait être ou ce que devrait être la vision du département. L'autre aspect qui me semble manqué, et là ça serait une surprise pour personne, c'est, ça a été redit tout à l'heure, certes il faut faire territoire, mais n'oublions pas de faire également méritoire, hein, parce que nous avons la chance d'avoir un littoral qui n'a pas que comme fonction une fonction touristique, ni non plus, même si la liaison avec Jersey et Portsmouth sont importantes pour la Brittany Ferries ou pour la Condor Ferries, mais c'est également une ouverture sur le monde. La mer n'est pas un espace de distance, c'est un espace de relation. Il y a de la pêche, il y a un certain nombre de choses. Quand je lis dans le rapport qu'il y a une action structurante autour de la Loire Atlantique ou l'île de France, je ne veux pas que l'on oublie que le port de Saint-Malo a une vocation à être ouvert sur le monde, que la baie du Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel est une relation avec nos voisins normands et également une reconnaissance d'un élément patrimonial reconnu au sein de l'UNESCO. Autrement dit, il y a une dimension très forte. Et quand est abordé sur l'aspect structurel également la dimension des déplacements, siégeant au conseil d'administration de la Fédération nationale des Scots, le 19 avril dernier, on nous a rappelé que fin du 19e siècle, en moyenne, un Français faisait 4 km par jour. Aujourd'hui, il en fait 40, mais dans le même temps. Ça veut dire que le temps est l'élément clé, la distance n'est pas l'élément fondamental, puisque si je peux aller plus vite d'un point à un autre sans consommer plus de temps, je m'éloignerai. Donc attention à cette vision qui serait kilométrique, alors que ce qui compte, c'est effectivement les temps de déplacement. Le deuxième point que je voulais aborder, vous l'avez également indiqué, Monsieur Marquet, c'est la relation avec la Brescope. Il y a, et là je pose une question, est-ce que le département d'Ille-et-Vilaine entend répondre à la demande de la région de prendre un engagement à l'échelle du territoire sur certains des 38 points ou sur le point des réseaux? Voilà, et comme je sais que le conseil régional souhaitait que ceci soit fait avant la fin du mois de mai, bon, quand et comment ceci pourrait-il être fait? Mais l'autre aspect, c'est qu'effectivement, le conseil régional dans la Brescope évoquait la nécessité de faire travailler en réseau les collectivités. Mais derrière cette notion de réseau, il y a la notion de polarité, il y a les exigences de droits et de devoirs des différentes communes qui veulent assumer un certain nombre de responsabilités. Et moi-même, je suis tout à fait favorable à cette notion ou ce principe du « tout partout c'est fini, tout pour tous, il faut que ça ne cesse de progresser ». Néanmoins, on s'est aperçu que la notion de polarité n'est pas la même suivant les objectifs des différents SCOT et qu'on ne pourra pas imaginer faire fonctionner le territoire départemental si on n'est pas en capacité de comprendre que l'ouverture d'une grande surface commerciale à l'ouest de Rennes peut avoir un impact sur le pays de Brocéliande, par exemple, ou des choses comme ça, parce que à la frange de chaque SCOT, il y a aussi des équilibres liés aux activités économiques, aux déplacements, aux populations, aux services, aux équipements, etc. Il y a un troisième point sur lequel je voulais intervenir, et là parce que je suis un peu inquiet, de voir qu'il pourrait y avoir une confusion entre la notion de haute valeur ajoutée et la notion de qualité. Alors je veux qu'on s'entende bien pour qu'il n'y ait pas de difficulté ensuite sur les choix qui pourraient être faits. Pour moi, la haute valeur ajoutée, ça oblige à se rappeler ce qu'est une valeur ajoutée. Et on ne peut pas partir de la valeur ajoutée sans se préoccuper de la valeur de la production, de la valeur du chiffre d'affaires. C'est-à-dire une quantité avec une valeur unitaire. Et comme il faut la vendre, on ne peut pas se soustraire à l'influence du marché. Les marchés sont ce qu'ils sont, mais si je produis sans jamais rien vendre, je ne créerai pas de valeur ajoutée. Il faut que je vende, donc je ne dois pas m'abstraire, me soustraire ou imaginer que je puisse vivre en dehors des réalités du monde. Ça veut dire que les acteurs économiques qui produisent beaucoup de quantité et qui se battent pour défendre la plus haute valeur de chacune des unités vendues, sont très importantes. Et je ne veux pas qu'on oppose ceci à l'économie circulaire, au circuit court, où je produirai peu, je ferai croire que je peux vendre très cher. Oui, parce que je suis dans un marché captif, mais oublions pas les gilets jaunes d'aujourd'hui et d'hier qui se préoccupent du pouvoir d'achat. Le chiffre d'affaires, base de la valeur ajoutée, c'est aussi la capacité du consommateur à acheter. C'est aussi l'obligation des centres de recherche à produire de la recherche et développement pour imaginer ce que les consommateurs demain pourraient avoir envie de trouver avec les évolutions technologiques. Ça veut dire que je ne veux pas que l'on oppose la notion de volume et les acteurs, que ce soit l'agroalimentaire, l'automobile ou d'autres secteurs, dont l'excellence peut être aujourd'hui acquise avec force, productivité, compétitivité, mais peut être tout à fait rediscutée, remise en cause. Et dans le calcul de la valeur ajoutée, on part bien sûr de la valeur de la production, mais on en dédie quoi ? Les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les matières premières et tout ce qui concerne les fournitures, qui peuvent être aussi produites sur place. Alors si le prix peut baisser, bah oui, ça ferait de valeur ajoutée supplémentaire, mais est-ce que les prix vont baisser ? L'énergie ? Est-ce que les prix, est-ce que la transition écologique va nous permettre d'avoir de l'énergie à moins cher ? Mais également les services. Et quand on veut construire notre économie sur du tertiaire et du service, on peut considérer que plus une entreprise voudra être compétitive, plus elle aura besoin d'incorporer un certain nombre de services. Il faudra aussi qu'elle dépense peut-être plus de consommation intermédiaire, y compris sur place. Et sa valeur ajoutée peut peut-être baisser, sachant que c'est cette valeur ajoutée qui permet de financer quoi ? Ben, les salaires et les charges, les impôts et les taxes, les frais financiers et les amortissements, donc le renouvellement des équipements. Donc attention à cette notion de forte valeur ajoutée, elle n'est pas du tout en opposition avec la production de qualité et de masse, avec des volumes, pour faire ce chiffre d'affaires à partir duquel des entreprises peuvent elles aussi prospérer et faire évoluer non seulement leur personnel, mais les outils de recherche et développement. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est le changement climatique, avec une de mes inquiétudes un peu récurrentes, concernant en particulier les évolutions liées à des excès de sécheresse ou des excès pluviométriques et à l'influence que ceci peut avoir sur les écosystèmes, en disant la compétence du département, c'est aussi les espaces naturels sensibles, dont un des objets de la politique, c'est de les rendre à 20 minutes accessibles. S'il y a une vocation touristique, n'oublions pas que si on va vers du changement climatique, on peut se retrouver aussi demain avec des difficultés très sérieuses, voire dramatiques en matière de sécurité, en matière d'incendie, en matière de gestion de la ressource en eau, du stockage lorsqu'il y a des excès pluviométriques et leur utilisation lorsqu'on a l'absence de pluie, il est parti. Comme mon collègue Ludovic Colombel évoquait l'aspect sémantique et puis étymologique des mots, j'oublie pas que l'agriculture à guerre c'était le champ et qu'il y a peut-être dans des espaces naturels à réimplanter une forme d'agriculture qui permettra aussi d'éviter que la biodiversité se trouve altérée si demain un incendie devait intervenir et que du coup la gestion des espaces n'intéresse plus aucun touriste à venir voir les conséquences des incendies. Donc voilà les quatre points que je voulais soulever. Merci.
Merci Monsieur Mailleux. Alors Madame Le Gagne, entre-temps Monsieur Benoît s'est inscrit. Donc Madame Le Gagne.
Merci Monsieur le Président. Merci pour cette présentation et ce travail. Effectivement, j'ai bien noté les différents défis écologiques, énergétiques, économiques, transition numérique. Sur la transition démographique, vous me voyez venir. J'avais un manque dans la présentation, mais peut-être faute de compréhension, c'était sur la transition démographique. Et effectivement, plus principalement sur le vieillissement de la population, qui va quand même modifier en profondeur notre manière de vivre ensemble, nos liens sociaux, nos besoins. Un Breton sur trois aura plus de 65 ans en 2030, un Brétilien sur quatre, sans parler du pays de Saint-Malo, où déjà 30% de la population a plus de 60 ans. Donc en 2025, cela initie un déséquilibre démographique avec, dès 2027, une révolution avec les baby-boomers qui se poursuivra jusqu'à la fin du siècle. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, ce vieillissement n'est pas non plus toujours synonyme de dépendance et qu'il faut, à mon sens, considérer les ressorts qui sont offerts par l'allongement de la vie autonome. Seulement 17% des personnes de plus de 80 ans seront dépendantes ou sont dépendantes, et cela uniquement pendant 18 mois. Cela veut dire que 83% des personnes âgées auront une vie qui se terminera avec un état d'autonomie ou d'indépendance fonctionnelle. 20 à 25 ans après l'arrêt du travail. Donc moi, j'aurais aimé effectivement que dans cette présentation, on puisse nous inciter au sein du conseil départemental. Je connais tous les travaux qui sont portés par la commission 3, mais au sein du conseil départemental, en lien avec conseil régional, à une mobilisation des acteurs.